Accent d'Europe, Juliette Rangeval.
Bonjour, retour sur le procès de ceux qui aident les migrants en Grèce. 24 militants des droits humains, une affaire, la plus grande affaire, devenue le symbole de la criminalisation de la solidarité en Europe, pour reprendre l'expression employée par le Parlement européen dans un rapport sur la question. Ce procès s'est tenu mi-janvier sur l'île grecque de Lesbos. Lors de l'audience, la justice grecque a décidé d'annuler une partie des poursuites, celle pour espionnage, en raison de vices de forme, mettant un terme au bout de plus de 4 ans au premier volet judiciaire de la procédure. Une enquête est en revanche toujours en cours sur le second volet, qui comprend notamment les accusations de trafic d'êtres humains. À Lesbos, Joël Bronner a assisté à ce procès très politique.
L'une des figures du procès qui se tient sur l'île de Lesbos, la réfugiée syrienne Sarah Mardini, dont l'histoire a été popularisée par Netflix via le film Les Nageuses, est absente. C'est donc vers Sean Binder, jeune plongeur allemand qui rêve de devenir avocat, l'autre figure médiatique de ce procès, que se tournent micros et caméras devant le tribunal de Mytilène au matin de l'ouverture du procès.
Nous ne demandons qu'une chose, que l'Union européenne et la justice grecque se conforment à la loi. Nous devons veiller à ce que les opérations de recherche et de sauvetage soient autorisées et le droit d'asile respecté. Espérons que la justice honore l'état de droit.
Ce procès, c'est celui de 24 travailleurs humanitaires poursuivis par l'État grec. Tous ont collaboré avec l'ONG ERSI entre 2016 et 2018. Leur mission, en collaboration avec les gardes-côtes grecs, venir en aide aux demandeurs d'asile en détresse en mer. L'île de Lesbos se trouvant sur l'une des principales routes migratoires qui mènent à l'Europe, à partir de la Turquie voisine. À la fin de l'audience, nous retrouvons Sean Binder.
Je suis habité par un sentiment permanent de colère et de frustration. Colère et frustration parce que je risque 20 ans de prison pour avoir tenté de venir en aide à des gens en détresse. Colère et frustration parce que beaucoup d'autres personnes font face à des poursuites et risquent l'incarcération. En plus de cela, il y a des demandeurs d'asile qui ont fui le danger, qui ont réussi à survivre et qui se retrouvent aussi à présent traités comme des criminels.
Peter Wintonberg, banquier néerlandais à la retraite, fait lui aussi partie des secouristes poursuivis. Il explique qu'au départ, en 2016, il s'est rendu à Lesbos parce que la situation des demandeurs d'asile lui rappelait sa propre histoire familiale. Son père juif ayant fui la Tchécoslovaquie à l'arrivée d'Hitler pour trouver refuge aux Pays-Bas. Selon lui, pour qu'il y ait des droits de l'homme, il faut aussi des devoirs, devoirs dont il tâchait ici de s'acquitter. Lorsqu'on l'interroge sur la liste des charges qui pèsent contre lui, il les résume avec ironie.
Espionnage, trafic d'êtres humains, appartenance à une organisation criminelle, blanchiment d'argent et bien d'autres encore, à l'exception de meurtres et homicides. Je peux comprendre les motivations politiques de la Grèce, mais tout cela est inepte. Mon point de vue personnel, c'est que les lois sont utilisées en contradiction avec l'esprit dans lequel elles ont été rédigées. Le blanchiment d'argent est une mauvaise chose, nous sommes d'accord. L'espionnage n'est pas une bonne chose non plus. Mais la question c'est, étions-nous des espions ? Eh bien non. À ma connaissance, je ne suis au courant d'aucun secret concernant l'État grec. Et nous voyons ce phénomène à travers toute l'Europe, la mauvaise utilisation des lois qui, par nature, sont pourtant bonnes.
Pour la défense, ce procès correspond à un message aux ONG de la part de l'État grec. Un message qui est passé, puisque malgré des accusations floues, excessives et peu convaincantes, face au risque de poursuite, plus aucune ONG ne patrouille aujourd'hui en mer pour venir en aide aux migrants. Athènes est ainsi libre de multiplier les refoulements, largement documentés, des migrants et demandeurs d'asile en provenance de Turquie. Venu de Belgique pour assister à l'audience, vise de graves représentants Amnesty International.
Nous considérons largement ce procès comme un procès de la criminalisation de la solidarité. Nous le voyons comme une tentative des autorités grecques de vraiment décourager les travailleurs humanitaires, ceux qui viennent en aide aux autres, d'aider les gens dans le besoin, comme les migrants et les réfugiés. Nous y voyons aussi une tentative de décourager réfugiés et migrants de trouver un asile sûr en Europe.
Grèce, France, Italie, Pologne, pour le représentant d'Amnesty, ce phénomène de criminalisation des acteurs de la solidarité est une tendance de plus en plus souvent observée en Europe.
Sauver des vies n'est pas un crime, nous devons le dire haut et fort. Nous ne pouvons accepter que ce genre de choses se passe dans l'Union européenne ou ailleurs.
Vice de forme. Après 2 jours d'audience et plus de 4 ans de procédure, la justice grecque a mis un terme à la partie judiciaire concernant les délits. En revanche, les travailleurs humanitaires qui portaient secours aux migrants en mer sont toujours poursuivis en parallèle pour les crimes dont Athènes les accuse. Sur ce point, une enquête est toujours en cours. De son côté, l'Organisation internationale pour les migrations a dénombré au moins 500 morts ou disparus en Méditerranée orientale depuis 2021.
Sexisme, violence sexuelle, la situation reste alarmante dans plusieurs pays européens. À rebours de ce constat, en Pologne, une femme a été acquittée du meurtre de son mari qui tentait de la violer. Elle risquait jusqu'à 8 ans de prison. Cette décision de la Cour suprême est assez rare en Pologne, pays où les droits des femmes sont souvent limités. Martin Chabal.
C'est un acte de légitime défense pour Carolina P., polonaise de 38 ans. La Cour suprême a confirmé les décisions prises par 2 tribunaux inférieurs. C'était il y a 2 ans et demi. Le mari de Carolina est rentré ivre chez eux et lui a demandé des relations sexuelles. Elle s'est enfuie sur le balcon pour demander de l'aide aux voisins. L'homme a commencé à être violent et Carolina a saisi un couteau pendant la bagarre. Un premier coup dans l'épaule n'a pas arrêté son mari qui tentait toujours de la violer, alors Carolina l'a poignardé au niveau de la poitrine. Lors de son premier procès, le procureur a requis 8 ans de prison contre elle. Mais le tribunal de Cracovie l'a acquitté, affirmant qu'il s'agissait d'un acte de légitime défense face à un mari violent qui tentait de la violer. Une décision validée par la cour d'appel de la ville. Mais les procureurs qui représentent l'État dans un procès ont continué de poursuivre Carolina pour le meurtre de son mari. Selon eux, le mari de Carolina était tellement ivre que l'utilisation d'un couteau était disproportionnée. Un simple cri aurait alors suffi à faire sursauter l'agresseur. Des réquisitions qui n'ont pas fait changer d'avis la plus haute institution judiciaire du pays. Cette décision a été saluée par l'avocate de Carolina qui a déclaré que les tribunaux ont déterminé que la liberté sexuelle d'une femme est un bien plus important que la vie de l'agresseur qui l'a agressée. Une position assez rare en Pologne. Dans le pays, toutes les 40 secondes environ, une femme subit des violences et près de 500 en meurent chaque année. Et la grande majorité se font au sein même du foyer familial. Des violences qui, pour certains Polonais, ne devraient pas sortir de la sphère privée. 10% des hommes pensent que le viol au sein du couple n'existe pas. Et il y a 2 ans, c'est l'Église catholique polonaise qui a voulu réduire les droits des femmes. Elle demandait au pays de se retirer de la Convention européenne sur la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique. Elle avertissait que cette convention introduisait une idéologie de genre en Pologne. L'actuel ministre de la Justice avait déclaré au moment de l'introduction de cette convention européenne qu'il n'y avait pas besoin d'avoir une convention pour savoir qu'il ne faut pas battre une femme, il suffit de lire l'Évangile. Le Conseil de l'Europe a tout de même noté que la Pologne avait fait des efforts pour lutter contre la violence à l'égard des femmes, en témoigne cette affaire, mais de nombreuses mesures pourraient encore être prises dans ce sens, notamment sur la définition juridique du viol.
Peter Pavel, un ancien para aux portes de la présidence tchèque, cet ancien communiste, ancien militaire, est en bonne position pour devenir à 61 ans le prochain président de la Tchéquie. Il est arrivé en tête du premier tour le 14 janvier dernier. Il affrontera à la fin de la semaine l'ancien premier ministre Andrej Babiš. C'est l'Européen de la semaine avec Daniel Vallon.
Au soir du premier tour, le 14 janvier dernier, les résultats le placent en position idéale devant ses partisans. Pietre Pavel ne cache pas sa satisfaction et se voit déjà en tête du second tour.
L'enjeu de cette campagne sera de savoir s'il y aura du chaos dans notre pays ou le retour à l'état de droit, et si nous serons un pays digne de confiance pour nos alliés.
Une déclaration plutôt martiale pour cet ancien para qui a fait toute sa carrière au sein de l'armée tchèque. Jana Vargovčíková, chercheuse à l'INALCO, l'Institut National des Langues et Civilisations Orientales.
Il a gravi les échelons de l'armée jusqu'au poste de chef d'état-major qu'il occupait entre 2012 et 2015. Ensuite, a été proposé pour être président du comité militaire de l'OTAN, poste qu'il a donc gagné. Et en 2018, il a pris sa retraite.
Parmi ses faits d'armes, il y a cet acte de bravoure en 1993, pendant la guerre de Bosnie. Alors officier de l'armée tchèque, Pietr Pavel parvient à évacuer une unité de soldats français assiégés par les forces serbes et croates. Un épisode qu'il ne cesse de mettre en avant durant la campagne électorale. Mais dans le passé du général, comme on le surnomme dans son pays, il y a aussi un épisode beaucoup moins glorieux.
C'est surtout son passé militaire d'avant 89 qui est discuté, à savoir donc son adhésion au Parti communiste et sa volonté à la fin des années 80, donc très peu avant la chute du régime, de devenir agent des renseignements militaires.
Ça lui a beaucoup été reproché, mais lui-même a dit avoir fait une erreur.
Tout à fait. Or, en l'avouant assez en amont et en s'excusant publiquement, il a réussi à minimiser le poids de ce facteur, puisqu'il est de fait choisi par un électorat qui, historiquement, a été anticommuniste.
Au second tour, Pietr Pavel affrontera l'ancien Premier ministre tchèque Andrej Babiš, une personnalité controversée accusée de dérives populistes. Un danger pour la démocratie aux yeux d'un certain nombre de partis politiques qui tous vont se rallier derrière l'ancien militaire. Les sondages semblent favorables à Pietr Pavel, mais son élection lors du second tour, qui aura lieu le 27 janvier prochain, est loin d'être gagné d'avance, car son adversaire, Andrej Babiš, pourrait profiter de l'inflation galopante et de la crise économique traversée par la République tchèque pour galvaniser son électorat de base, un électorat plus âgé, plus rural et plus défavorisé que celui de l'ancien militaire.
What is the most attractive language?
Probably German, because like,
German?
Yes.
Why?
Because it's so aggressive, like I just want to be yelled at, like please yell at me, daddy, like you know.
I'm Smith.
S'il existe une région européenne où la langue allemande a le vent en poupe, c'est bien les Balkans, dans les pays d'ex-Yougoslavie et en Albanie. C'est moins le rêve américain que le rêve allemand qui pousse les jeunes à apprendre l'allemand. Les explications de notre correspondant Louis Seyé.
De Sarajevo à Tirana, en passant par Belgrade ou Skopje, les publicités pour les cours d'allemand sont visibles partout et les classes des écoles de langue affichent souvent complet. Dans les cursus scolaires aussi, l'allemand est en pleine expansion et dans certains pays de la région, il commence même à détrôner l'anglais comme première langue enseignée. Même en Albanie, le français et l'italien s'effacent au profit de l'allemand. Alors, si la langue de Goethe rencontre un tel engouement, c'est avant tout parce que l'Allemagne est devenue synonyme de vie meilleure pour la jeunesse des Balkans. Confrontés à des salaires de misère, à la corruption et à l'instabilité politique de leur pays, les jeunes balkaniques perçoivent l'émigration vers l'Allemagne comme l'une des seules perspectives pour gagner décemment leur vie. Des salaires corrects, des emplois stables et une certaine qualité de vie, c'est tout cela qui pousse les jeunes des Balkans à affronter la difficile grammaire allemande. Il faut dire qu'avec sa population vieillissante, l'Allemagne a d'énormes besoins en main-d'œuvre. L'an dernier, plus de 800 000 emplois étaient vacants et certains experts estiment que le pays devrait faire venir plus de 400 000 travailleurs par an. Pour répondre à ces besoins, Berlin a multiplié ces dernières années les accords avec les gouvernements locaux, notamment dans le secteur médical, afin d'importer du personnel de santé formé dans les Balkans. S'il n'est pas nouveau, cet exode des cerveaux a pris ces derniers mois des proportions gigantesques et il fait peser de sérieux risques pour des sociétés déjà fragiles et elles-mêmes confrontées au vieillissement de leur population.
Wow, bonjour ma chère, tu as bon mine, Maïté. Comme cela était l'île, la mer, la plage, formidable, Maria. Comme un rêve. Oh, si j'avais vu. Ah ah, as-tu compris l'importance de savoir le français? Dis-le-moi.
Les Français, eux, n'apprennent plus l'allemand, ni les Allemands le français. D'un côté, les élèves allemands délaissent le français. Seuls 15% d'entre eux ont choisi d'étudier le français à l'école, alors que l'anglais est choisi par 8 élèves sur 10. Parallèlement, 600 000 élèves français apprenaient l'allemand en 1991. Ils sont moins de 150 000 aujourd'hui. C'est cruel, 60 ans après la signature du traité de l'Élysée qui consacre l'amitié franco-allemande. Alors, pour faire vivre cette amitié, la nourrir malgré les complexités grammaticales d'un côté comme de l'autre, nous allons à l'école Romain Rolland de Berlin, une école franco-allemande qu'a visitée pour nous Salomé et non quoi.
Augustin a à peine 12 ans. Il participe cette semaine à un atelier sur les relations franco-allemandes. Chaque élève a choisi un thème de recherche pour en apprendre plus sur le sujet.
Je fais le projet Histoire politique franco-allemande. Et là, j'ai fait le traité de l'Élysée jusqu'à maintenant. C'est le traité de paix entre la France et l'Allemagne. Il a été signé au Palais de l'Élysée à Paris le 22 janvier 1963. Les deux nations voulaient à nouveau faire la paix.
Le petit garçon, blond, aux cheveux hirsutes, est allemand. Et passionné de politique. Quand on lui demande son avis sur ce traité,
je dirais que nous avons une relativement bonne relation avec la France, parce que sinon il n'y aurait pas de telles écoles. Mais c'est aussi parce qu'il y avait des Français ici, avant, à Berlin. Ici, c'était le secteur français.
En effet, l'école Romain Rolland est située dans la cité Foch, sur la place Molière, près de l'avenue Charles de Gaulle. Mais bien à Berlin. Ce quartier faisait partie du secteur contrôlé par les Français au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, et ce, jusqu'à 1990, comme nous l'explique Zélia Sikriksi, professeure de français dans cette classe.
Dans ce quartier-là habitaient à l'origine des soldats français avec leurs familles. Et leurs enfants venaient dans cette école, et c'était destiné seulement à des élèves français.
Cécilia Völker-Klatte est l'une des rares Allemandes à avoir pu être scolarisée ici. Aujourd'hui, elle est prof de français aussi dans cette école.
Je crois que c'était ma grand-mère qui a dit « Ah, il y a une école française dans la cité Foch, c'est pas loin d'ici. Ce serait bien d'envoyer les enfants là-bas, comme ça ils apprennent le français. » Et en tant qu'Allemande, j'ai rien compris pendant 6 mois, pendant 1 an. Et puis après, comme un enfant apprend très très vite la langue, j'ai tout compris et je pouvais parler et je pouvais suivre les cours.
Élevée dans cet esprit d'échange avec la France, Cécilia veut contribuer à faire vivre aux élèves cette relation privilégiée entre les deux voisins. Elle s'occupe d'organiser les échanges linguistiques et culturels pour que les élèves aillent passer quelques mois en France. Des échanges rendus possibles par le traité de l'Élysée et qui n'existent sous cette forme entre aucun autre pays. Mais les élèves de l'école Romain Rolland n'ont pas tous besoin de passer par elle pour partir en France. Une bonne partie d'entre eux est déjà franco-allemand. C'est le cas de plusieurs élèves dans le groupe de Zélia Sikriksi. Noah a 15 ans et a la double nationalité.
Je parle français avec mon père et mon frère et ma sœur aussi parlent français avec mon père. Et avec ma mère, je parle allemand et entre eux, ils parlent anglais. Donc je parle anglais couramment aussi.
Pour Joël, 13 ans, le fait d'être binational apporte d'autres avantages que le simple fait de parler deux langues.
Alors au foot, je suis plutôt pour la France. Je dois dire, je n'aime pas trop l'équipe allemande.
Ces élèves, réunis pour la semaine dans la classe de Zélia Sikriksi, ont entre 12 et 15 ans. Le but du projet, leur faire découvrir l'étendue des relations franco-allemandes et comment celles-ci les touchent au quotidien. Le groupe de Lou a choisi de travailler sur les faux amis.
Donc, die Art en allemand signifie la manière, c'est-à-dire comment on fait les choses. Mais l'art, le mot art en français se dit bien die Kunst. Donc l'art en français et die Art en allemand, ça sonne pareil et ça s'écrit pareil. Mais ça veut dire quelque chose de complètement différent.
Pour Zélia Sikriksi, il est important de travailler sur ces sujets linguistiques et culturels avec les élèves qui, pour certains, ne font plus vraiment la différence entre les langues, les cultures et les pays.
Quand on a grandi, quand on a passé des années dans un lycée avec des cours d'histoire et de géographie en français, les élèves à la fin ne se rendent plus compte de la différence. Pour eux, c'est normal. Même s'ils ne sont pas français ou francophones, ils ont déjà intégré les codes francophones.
Donc en fait, c'est presque devenu une culture unique pour eux.
Exactement. Ils ont grandi dans les deux cultures. La frontière entre ce qui est français et ce qui est allemand est floue. Ils pensent que les deux cultures forment une seule culture.
De quoi aller bien au-delà des espérances politiques et économiques des pères fondateurs du traité de l'Élysée. Ce lycée public, où sont scolarisés 990 élèves, ne représente bien sûr pas une majorité, mais participe avec ferveur à nourrir cette amitié franco-allemande.
Accent d'Europe à la réalisation, Françoise Grelot. Vous retrouvez le podcast de l'émission sur RFI.fr, sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous pouvez vous abonner. À bientôt.